signe de violence ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est l'éducation qui va, à son tour, le rendre violent, lui qui serait un être angélique et plein de bonnes intentions ?
Merci pour cette introduction. On m'entend bien ? Avant de répondre à cette question, je vais y répondre, mais je voudrais rapidement vous dire pourquoi je me suis intéressé à cette question. C'est pas professionnellement, j'étais professeur de lettres, ce qui n'est pas spécialement à s'occuper de la violence sur les enfants. Mais surtout, j'étais enfant pendant la guerre et j'ai beaucoup couru sous les bombardements américains. Une de mes sœurs a été déportée, donc tout ça, ça m'a fait beaucoup réfléchir à la violence. Pour moi, la violence, c'était ça, c'est la première que j'ai connue. Et je me suis demandé comment les hommes en arrivaient à de tels excès de violence, à des formes de, inacceptables, de torture, de faire souffrir les autres de cette façon. Pendant une grande partie de ma vie, je n'ai pas trouvé de réponse ou des réponses qui ne me satisfaisaient pas, jusqu'au moment où j'ai lu les livres d'Alice Miller, que vous connaissez peut-être, en particulier C'est pourtant bien. Et là, j'ai eu l'impression de trouver une réponse. Alice Miller a expliqué que la majorité des violences commises, qu'elles soient individuelles ou collectives finalement, avaient pour origine des violences subies. Et ça m'a paru extrêmement éclairant. J'ai lu tous les livres d'Alice Miller, je suis encore en contact avec elle, et puis un beau jour elle m'a demandé, on venait de lui demander d'écrire un livre sur la fessée, elle n'avait pas le temps de le faire et elle m'a demandé de l'écrire. Je me suis lancé là-dedans et depuis je n'en suis pas sorti parce que c'est un sujet très vaste. En fait, c'est un sujet, et en plus, c'est un sujet qui est très très peu traité. Bon, la maltraitance, oui, mais la violence éducative ordinaire, qui fait partie des traumatismes d'enfance, et on peut dire que c'est même le plus généralisé, parce que c'est pratiquement admis par tout le monde. Et quand j'ai étudié de plus près, je me suis aperçu que c'était dans tous les pays du monde, depuis 5000 ans au moins. 5000 ans, c'est la date de l'apparition de l'écriture, qui nous permet d'apprendre qu'il y avait dans les vieilles sociétés des proverbes qui disaient qu'il fallait frapper les enfants. Donc c'est pas récent. Et avec des conséquences qui ne peuvent pas être bénignes, surtout quand on pense à la façon dont les enfants étaient frappés pendant ces 5000 ans. C'était pas la gifle et la fessée, c'était des coups de bâton, des coups de fouet. Et malheureusement, ça existe encore dans beaucoup de sociétés. Donc voilà comment j'en suis arrivé à m'intéresser à cette question et à militer aussi pour essayer d'obtenir que ce type de violence soit interdit, même faible, dans notre pays, alors qu'il a été interdit déjà dans 35 pays au monde. Alors je commencerai, pour répondre à votre question, par parler de ce que l'on sait de nouveau sur l'enfant. Depuis une soixantaine d'années, on a appris énormément sur les enfants, vous le savez sans doute, puisque vous êtes professionnel de l'enfance, mais je voudrais le rappeler parce que ça donne une image de l'enfant qui ne correspond absolument pas à l'image qu'on en avait. L'image qu'on en avait, c'était celle qui est résumée dans la petite phrase du philosophe allemand Emmanuel Kant, qui disait « Nous sommes faits d'un bois si tordu qu'on ne pourra jamais en tirer quelque chose de droit. » L'idée, c'est ça. Nous naissons tordus. Et ça, il faut corriger, dompter, faire frapper, parce que sinon, on n'arrive jamais à faire un adulte droit. Et est-ce que ce qu'on a découvert récemment correspond, confirme cela ? Eh bien, pas du tout. Nous savons aujourd'hui, bon, du point de vue physiologique, que nous avons un corps qui fonctionne par lui-même sans que nous agissions sur lui de toutes sortes de façons, la respiration, la digestion, etc. Je voudrais insister sur deux aspects importants, parce que j'y reviendrai en ce qui concerne les effets de la violence éducative dessus. C'est d'abord le système de sauvegarde que nous avons en nous, c'est-à-dire le stress. Le stress qui fait que quand nous percevons un danger, immédiatement, notre corps nous prépare, avant même que nous ayons pris conscience du danger, puisque quelquefois même nous nous trompons complètement, croyant être en danger, nous ne sommes pas. Notre corps nous prépare à la fuite et à la défense. Donc, deux attitudes très précises, et il prépare notre corps de la circulation du sang et diffuse des hormones dans notre corps pour que nous puissions fuir ou nous défendre. Donc, système de sauvegarde, et deuxième système essentiel, le système immunitaire, qui nous préserve de beaucoup de maladies. Et on verra tout à l'heure répercussions que peut avoir la violence éducative sur ce système. Ensuite, alors ce qu'on a découvert aussi plus récemment, d'abord, il y a déjà quand même une soixantaine d'années, ce qu'a découvert John Bowlby, le psychanalyste John Bowlby, c'est l'attachement. L'attachement qui fait que les enfants, dès la naissance pratiquement, cherchent à renouer le lien qui s'est coupé lorsqu'ils sont nés et à vraiment s'attacher ses parents. Et l'enfant est actif. C'est le docteur Cohen-Solal qui disait que l'enfant fait la moitié du chemin vers ses parents et les parents font l'autre moitié, mais c'est vrai, par toutes sortes de moyens, ne serait-ce que les pleurs, les cris, les sourires, la tétée qui est un comportement nutritionnel, mais aussi un comportement qui crée un lien très fort. Tout cela, ce sont des moyens de créer l'attachement parce que le bébé ne peut pas vivre sans l'attachement. Le bébé veut vivre, mais il veut vivre avec. C'est vivre et vivre avec, c'est fondamental. Deuxième découverte, alors plus récente, bien sûr, on savait que les enfants imitaient. On avait montré que dès les premières heures de la vie, l'enfant qu'on lui tient la tête pour qu'elle ne ballotte pas est capable d'imiter. Si on tire la langue, par exemple, devant lui, il tire la langue. Si on ouvre la bouche, il ouvre la bouche. C'est le signe que vraiment le mimétisme est chez lui tout à fait inné. Et plus récemment, ce sont des scientifiques italiens qui ont montré que nous avons dans notre cerveau des neurones miroirs qui, d'une part, enregistrent tous les comportements que nous voyons et, d'autre part, nous préparent à les reproduire. C'est quand nous observons un comportement, il se crée littéralement un chemin neuronal dans notre cerveau qui nous prépare à reproduire cela, et nous sommes bien que nous sommes faits pour apprendre par l'imitation. Et l'imitation, c'est une grande partie de la base de l'apprentissage des enfants. Troisième point qui a été mis en lumière aussi récemment, c'est notamment un Français, Jean Desséti, qui en a parlé, c'est l'empathie. L'empathie, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose de vital, parce que c'est ce qui permet, ça existe chez les animaux déjà, c'est ce qui permet de voir si quelqu'un a des intentions amicales ou hostiles. C'est donc vital, c'est pas un luxe. Et c'est ce qui fait que nous ressentons les émotions des autres. Simplement à voir leur comportement, leur visage, leur mimique, nous partageons les émotions des autres. Et c'est la base, littéralement, c'est la base de la compassion. Autrement dit, c'est la base de l'humanité, quand on dit l'humanité au sens fort du terme, être humain, eh bien, l'empathie, c'est la base de cela. Et c'est quelque chose qui est déjà dans les bébés très petits, qui se développe, qui peut se développer ou qui peut s'éteindre, qui peut se réduire, on verra comment. Autre point tout récent, ça date, je crois, de 2006, la découverte que les bébés sont très tôt altruiste, vraiment très tôt. Vous pouvez regarder sur Internet les expériences du scientifique allemand Warnken, W-A-R-N-E-K-E-N, où il montre que lorsque un adulte se trouve en difficulté devant des enfants de 18 mois et même qui ne marchent pas encore, s'ils peuvent identifier ce qui pose problème à l'adulte, par exemple il a fait tomber un objet, il feint d'essayer de le rattraper, il n'y arrive pas, eh bien, l'enfant spontanément vient, ramasse l'objet, le présente à l'adulte. Et c'est vraiment inné, puisque ça existe déjà chez les chimpanzés. Les chimpanzés ont le même comportement s'ils voient quelqu'un qui est dans le même genre de difficulté. Donc, ça, il y a vraiment un altruisme inné, et je crois qu'il faut en tenir compte quand on pense à l'image de l'enfant. Tout récemment encore, mais là, je n'ai pas eu de confirmation tout à fait scientifique. Récemment, ça date, je crois, du 20 janvier, ça a été publié sur Internet. On a fait une expérience sur une petite échelle, sur une soixantaine d'enfants, qui a montré que, avant d'obéir, à l'âge de là, ça se passe à l'âge de 3 ans, mais c'est déjà un petit peu plus âgé, avant d'obéir, les enfants se demandent s'il y a vraiment des raisons d'obéir, si l'ordre qu'on leur donne n'est pas absurde. Si par exemple on leur demande de remplir d'eau un verre dont ils ont vu que le verre était percé, eh bien, ils réfléchissent et certains ne le font pas. parce qu'ils ont vu que non, c'était pas, ça ne pouvait pas marcher. Et donc, ça suppose, vous voyez les malentendus que ça peut provoquer si nous exigeons, nous, obéissance au doigt et à l'œil. Eh oui, ben, obéissance au doigt et à l'œil, mais l'enfant risque de perdre cette très saine habitude de n'obéir que à des ordres qui aient un sens. Et malheureusement, on nous a souvent appris à obéir, quoi qu'il en coûte, quelle que soit l'intelligence ou la sottise des ordres qu'on nous donne. Donc, vous voyez que les enfants, je trouve que notre image des enfants doit tenir compte de tout cela, tous ces véritables dons, ces capacités qui sont en eux et qui font qu'ils ont les bases pour devenir vraiment des humains au sens le plus fort du terme, et des humains capables de nouer des relations harmonieuses avec les autres. Mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, les enfants veulent vivre et vivre avec. Autrement dit, ils vont s'adapter à tout. Quel que soit le comportement des adultes, ils vont s'y adapter difficilement, mais ce qui compte avant tout, c'est vivre avec. Et donc, si les adultes de l'entourage, ou les parents, ou les enseignants, ont des comportements qui sont vraiment peu adaptés à la situation, eux vont essayer de s'y adapter et ça va entraîner donc des déformations. Ça peut entraîner des déformations ou au contraire une très bonne formation si l'entourage est tout à fait adapté. Donc il y a une vulnérabilité extrême des enfants qu'il faut associer à ces qualités extraordinaires. Alors, quels sont les effets que produit le système traditionnel d'éducation sur les enfants? D'abord, quelle idée avait-on des enfants dans le passé? Eh bien, une idée assez catastrophique. Dans la Bible, vous avez, dans la Bible qui remonte, dans les textes les plus anciens remontent vers 600 avant Jésus-Christ à peu près, vous avez des proverbes, un proverbe dans la Bible qui dit clairement que l'enfant porte la folie en lui. Alors ce n'est pas la folie au sens de la maladie mentale, mais en réalité, quand on analyse bien, je me suis renseigné auprès d'exégètes de la Bible, c'est en fait être fou, c'est ne pas obéir, ne pas obéir à la sagesse des parents. Vous savez que dans l'Antiquité, il y a un livre de la sagesse dans la Bible, mais en fait, le mot qui veut dire sagesse veut dire aussi châtiment. C'est la même chose. Donc, l'idée qu'on avait, c'était ça. Les enfants sont porte-à-folie en eux. Ensuite, vous savez que sous le christianisme, on a mis au point le péché originel. Les enfants naissent avec le péché originel et c'est un lourd passif. Ensuite, on les a souvent vus comme des petits animaux indociles et qu'il fallait maîtriser, qu'il fallait dompter, comme on domptait les animaux, et vous savez comment on le faisait, par des moyens violents. Et aujourd'hui encore, on attribue aux enfants des pulsions, et pas n'importe quelle pulsion, par ici, de l'inceste, de meurtre. Donc, une vision extrêmement noire des enfants. L'idée, donc, du moment que les enfants sont comme ça, il faut les corriger, il faut les maîtriser, il faut les dompter. Nos petites violences, les gifles et les fessées, sont la suite de cette tradition. J'ai oublié de vous dire, à propos de l'image que nous avons des enfants, quand j'ai écrit mon livre « Oui, la nature humaine est bonne », j'ai étudié le vocabulaire, j'ai eu la curiosité d'éduquer le vocabulaire qui désigne les enfants. J'étais très surpris de voir qu'au moins en français, malheureusement, je n'ai pas pu faire de l'étude sur d'autres langues, ce serait intéressant de la faire, mais au moins en français, la majorité des termes qui désignent les enfants sont péjoratifs, et péjoratifs gravement. Bon, vous avez des termes dont on ne sait même plus le sens qu'ils ont, mais des mots comme gamin, galopin, gosse, tout ça, c'est péjoratif. Ça les assimile souvent à des animaux, même si c'est quelquefois tendre, quand on dit les mouflés, bon, c'est gentil, c'est sûr, mais quand même, on les met au niveau des animaux. Et puis, pensez aux autres termes qu'on a employés, morveux, pisseuse, merdeux. Ce sont des termes qu'on employait tout à fait couramment et qui désignent, qui ramènent les enfants à leurs expressions. C'est dire à quel point on avait des enfants une image vraiment détériorée. Et cette image, elle est encore dans l'ambiance que nous respirons, dans Madame, les termes que disait Madame tout à l'heure, le manifesté n'a jamais fait de mal à personne, mais il y a une foule d'expressions dans, d'idées, de mots qui renvoient, qui reprennent cette image, même si nous voulons nous en séparer. Alors, on a corrigé donc les enfants, je ne vais pas vous détailler les corrections, je l'ai fait dans mon livre La Fessée. C'est pas seulement la gifle et la fessée, bien, c'est le bâton, les coups de fouet, les coups de ceinture, des positions extrêmement douloureuses, à genoux sur des graviers, hier encore on a dit à genoux sur des grains de riz, à genoux sur un manche à balai. Je connais une personne qui a passé des heures à genoux sur un manche à balai, les articulations des genoux démolies par ça. Et alors qu'on dit, moi, une bonne fessée n'a jamais fait de mal à personne, vous voyez, comme si c'était passager. Non, il y a des effets qui sont permanents. Et je reçois des lettres de beaucoup de gens qui me disent, ce sont des personnes de 50, 60 ans, qui me disent, je manque de confiance en moi, je n'ai pas d'estime de moi-même, et ça remonte à leur enfance. Donc, on a vraiment pratiqué des corrections terribles sur les enfants. Beaucoup en sont morts, beaucoup en ont été mutilés, parce que c'était extrêmement violent. Dans les pays européens, il y a eu une évolution qui a commencé au XVIe siècle, avec des gens comme Erasme, Rabelais, Montaigne, qui ont petit à petit introduit l'idée que les punitions corporelles étaient mauvaises. Mais ça a été très très long à progresser dans les esprits, d'autant plus qu'il y avait une attitude très réactive des membres de l'enseignement qui étaient souvent des religieux et qui avaient toujours les proverbes dans leur esprit, les proverbes bibliques qui sont, je vous en ai cité un, mais il y en a des douzaines. Et c'est, alors certains pédagogues chrétiens ont essayé d'atténuer la violence dans les écoles, mais ils n'ont pas essayé dans les familles d'ailleurs, ils n'ont pratiquement pas parlé. Dans les écoles, ils ont essayé d'atténuer, mais comme ils n'interdisaient pas complètement, eh bien, chaque fois le naturel revenait, aussi bien du côté des enseignants que du côté des enfants. Parce que des enfants qui ont été battus, ils ont tendance à n'obéir qu'au coup. Et si on ne les bat pas, ils font tout ce qu'ils ont envie de faire. Donc, c'était un mécanisme qui s'est perpétué tant que l'État n'est pas intervenu pour interdire dans les écoles. Et ça a commencé, les premières interdictions, elles datent du début du XIXe siècle. Ensuite, elles se sont répétées à plusieurs reprises. Et petit à petit, dans les écoles, on a à peu près cessé, à peu près, malheureusement, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin, on a à peu près cessé de frapper, c'est devenu interdit par des règlements, par des circulaires, mais pas par des lois. Donc, vous voyez que on est encore dans une société où, quand on voit les sondages, pratiquement 80% des enfants subissent des coups, pas toujours des coups très violents, hein, mais des gifles, mais quelquefois aussi des coups violents. Alors, quels sont les effets de ces corrections? Eh bien, d'abord sur la santé physique et mentale, je vous ai parlé tout à l'heure du stress et de ses bienfaits, puisque c'est un moyen de sauvegarde, en un sens. Malheureusement, et ça c'est un scientifique français qui l'a montré, c'est Henri Laborie, quand on ne peut pas, quand on est soumis à des coups ou à des chocs, même des chocs électriques, Laborie a fait des expériences sur les rats, quand un animal est soumis à des chocs électriques, s'il peut s'enfuir, il n'y a pas de conséquences graves, même pas de conséquences, ça passe très vite. S'il peut se battre contre un autre rat, il n'y a pas de conséquences non plus parce qu'il peut se défendre. Et donc son corps est actif, les hormones du stress font leur travail, et donc il n'y a pas de problème. Mais si on met un rat dans une cage où il ne peut pas fuir, à ce moment-là, il se ratatine dans un coin de la cage, et les scientifiques ne sont pas toujours très tendres avec leurs animaux, si on le dissèque après, on s'aperçoit qu'il a des atteintes au système digestif, parce que les hormones du stress deviennent toxiques. Et depuis Henri Laborie, on a vu qu'elles attaquaient non seulement le système digestif, mais elles attaquent aussi les neurones, notamment des parties du cerveau qui concernent la mémoire. Donc, vous voyez qu'un enfant qui est frappé ne peut ni fuir ni se défendre. Il n'est pas question de quitter la famille. Enfin, certains le font quand ils sont vraiment dans beaucoup de pays, il y a beaucoup d'enfants à la rue qui sont à la rue, non pas par la pauvreté, à cause de la pauvreté, mais je ne sais pas pour tous, hein, mais pour ça un certain nombre, mais parce que ou à l'école ou chez eux, ils sont tellement battus qu'ils préfèrent rester à la rue. Deuxième effet des hormones du stress aussi, et du stress plutôt, lorsque nous sommes sommes en situation de stress, notre organisme qui est bien fait désactive tout ce qui n'est pas indispensable à l'action, c'est-à-dire à la fuite ou à la défense. Alors il désactive par exemple le système qui permet la croissance, il désactive en particulier le système immunitaire, parce que c'est pas grave d'attraper un rhume de cerveau si on est dans une situation de danger immédiat. Alors, quand le danger passe, les hormones du stress disparaissent et le système immunitaire se remet en place. Mais s'il y a répétition trop fréquente des situations de stress, eh bien, au bout d'un moment, le système immunitaire s'affaiblit, devient moins efficace, et c'est ce qui explique que ce qu'on a constaté, ce que plusieurs enquêtes ont constaté, que les enfants qui ont été battus, frappés dans leur enfance, ont souvent une santé moins bonne que les autres, parce que ça dégrade, ça atteint vraiment le système essentiel de protection contre la maladie. Ensuite, alors sur les capacités innées que j'ai énumérées, l'attachement, par exemple, eh bien, quand un enfant vient au monde, il vient pour la première fois, il ne sait pas comment ça fonctionne sur notre planète, si on commence à mêler de l'affection, et la majorité des parents sont affectueux avec leurs enfants, mais si on mêle l'affection et la violence, et on leur dit « je te frappe parce que je t'aime, je te frappe pour ton bien », etc., on produit un court-circuit dans leur esprit, ah, violence et affection, ça va de pair. Ça va ensemble. Et il en reste quelque chose. Alors que normalement, là, nous devrions avoir une nette séparation dans notre esprit entre les deux, maintenant, là, ça va ensemble. Il ne faut pas trop s'étonner si on voit ensuite chez les adultes des confusions de ce genre. Je t'aime, je te bats. Vous connaissez ce message. Il y a un autre effet sur l'attachement dont on aurait dû prendre conscience depuis deux siècles et demi, plus, deux siècles et demi ou presque trois, c'est l'effet sur le masochisme, hein, puisque Rousseau en avait parlé très clairement dans ses Confessions. Il explique qu'une fessée qu'il a reçue à l'âge de 8 ans l'a rendu masochiste à vie. Il a été incapable d'éprouver de plaisir sexuel autrement qu'en se trouvant en situation de victime. Et c'est quelque chose que m'ont confirmé plusieurs lecteurs et lectrices de mes livres qui m'ont dit qu'il m'est arrivé exactement la même chose. Alors bon, certains s'en accommodent, ils vont dans des clubs sadomasochistes, très bien, pas de problème, mais certains s'en accommodent pas du tout et en souffrent toute leur vie, tout simplement. Ensuite, l'imitation. Ben, sur l'imitation, c'est assez clair. Les enfants donc, fonctionnent par imitation. La première chose qu'on apprend à un enfant quand on le frappe, c'est à frapper. Il enregistre le geste, ça le prépare à le reproduire plus tard. Je crois que quand nous disons que nous sommes parents, la main nous démange, c'est l'effet de cette répétition. C'est pas nous qui sommes vraiment responsables, c'est notre passé qui vient à travers notre main pour nous exiger que nous frappions. En plus, le fait d'être frappé montre que la violence est normale, y compris dans un contexte donc affectif et affectueux. On acquiert un seuil d'intolérance très élevé. Plus la violence qu'on subit dans son enfance est élevée, plus le seuil de tolérance s'élève, puisque on considère que ce qu'on a subi, ben, en plus c'est pour notre bien, bon, c'est normal, c'est pas grave de le reproduire. Quand on voit des gens qui torturent d'autres personnes, je suis persuadé, convaincu que ce sont des gens qui ont été eux-mêmes torturés et qui considèrent que c'est normal. Il y a eu un témoignage, c'est dans Le Monde, qui a eu un article sur ce qu'a subi un journaliste en Syrie. On lui a imposé, on l'a frappé sur la plante des pieds, mais très très fort, c'était un châtiment extrêmement douloureux, parce que la plante des pieds est très sensible. Et personne n'a fait, le journaliste n'a pas fait remarquer que la falaka, c'est le nom que porte ce châtiment, est pratiqué couramment sur le pourtour de la Méditerranée. C'est vraiment un châtiment courant sur les enfants. J'ai eu plusieurs élèves qui venaient du Maroc ou d'Algérie qui m'ont dit qu'ils l'avaient subi. Et quand on l'a subi comme normal, en mesure éducative, pourquoi ne pas le faire subir à des gens qui sont plus coupables, puisqu'ils sont emprisonnés, sont des adversaires, sont des ennemis, etc. Il y a toutes sortes de justifications. Et c'est que ça a placé notre seuil de tolérance, d'intolérance plutôt, très haut. Donc, on peut en faire beaucoup sans problème. Autre conséquence grave, c'est que c'est l'absence de distinction entre conflit et violence. Quand, dans notre enfance, nous avons, au moindre conflit avec nos parents, subi des coups, nous apprenons que les conflits se règlent par la violence. C'est normal. Alors qu'un conflit, les conflits, c'est vraiment normal. C'est normal qu'on soit en conflit avec les autres parce qu'on a des volontés, des désirs différents. Ce n'est pas malsain d'être en conflit. Sauf si ça dure trop longtemps, bien sûr, mais c'est normal d'avoir des conflits de temps en temps. Mais avoir l'idée que ça doit se régler toujours par la violence, ça c'est vraiment grave. Et c'est quelque chose qui peut s'acquérir dès le plus jeune âge. Ensuite, sur l'empathie, quand les enfants qui sont soumis à des violences, au bout d'un moment, j'ai eu plusieurs lecteurs de mes livres qui m'ont dit, moi, au bout d'un moment, les violences, je ne les ressentais plus. Les coups, je ne les ressentais plus. Par contre, les mots que me disait ma mère, tu feras le trottoir, ou tu vends à rien, ça, oui, je m'en souvenais. Mais les coups, non, je ne sentais plus. Alors, on peut se dire, c'est bien, ces gens avaient réussi à se blinder contre la violence, ça leur évitait de souffrir. Le problème, c'est que se blinder, ça veut dire se couper de ses propres émotions, se couper de la souffrance. Et il paraît qu'on y arrive, je n'ai pas l'expérience, mais il paraît qu'on y arrive. Et qu'on y arrive même très bien. Seulement, quand on est coupé de ses propres émotions, on est coupé de son empathie. Et on risque de ne plus ressentir les émotions des autres. Ou alors, de n'avoir plus que cette part de l'empathie qui est l'empathie cognitive qui fait qu'on peut repérer les émotions des autres mais sans vraiment les éprouver, sans les partager, donc sans y être vraiment sensible. Et à ce moment-là, on est capable de manipuler les autres parce qu'on voit les victimes, c'est la perversion. Hein. Et vous savez que les serial killers, les tueurs en série, une de leurs caractéristiques, c'est que justement, ils sont privés d'empathie. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, sur la conscience morale, l'effet, je trouve, est catastrophique et c'est curieux qu'on ne le dise pas suffisamment. Il y a un principe d'éthique qui est absolument universel. On le trouve dans toutes les religions, dans toutes les philosophies. C'est « ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ». Or, qu'est-ce qu'on apprend à un enfant quand on le frappe ? On lui fait exactement le contraire. On le met dans un double langage, d'un côté langage, surtout quand on lui dit « ne frappe pas ta petite sœur ou ton petit frère » et qu'on le frappe pour ça, on lui envoie un double message, et deux messages absolument contradictoires. Alors débrouille-toi avec ça, la conscience morale, c'est quelque chose, le sens du bien et du mal, là aussi je pourrais vous en parler, on s'est aperçu que ça existait très tôt chez les enfants, vraiment très très tôt, et le sens de la justice aussi. Et c'est quelque chose de délicat. Et forcer à accepter le contraire par un double langage, c'est un peu comme quand on force un pas de vis, alors qu'on a mal mis la vis, c'est catastrophique, ça détruit le support, en quelque sorte. Donc, il y a un deuxième principe de morale qui est en général aussi admis, peut-être moins universel que l'autre, mais on considère qu'il est lâche pour un être grand et fort de battre un être petit et faible. C'est évident. Qu'est-ce qu'on fait quand on frappe un enfant ? On fait exactement cela. Vous voyez qu'on est en plein paradoxe et on croit qu'on est dans la logique éducative alors qu'on est dans un illogisme complet. Voilà, un autre effet, bien sûr, de la violence sur les enfants, c'est aussi que la violence est humiliante. Même si, les fessées qui nuent, par exemple, sont particulièrement humiliants, donc plus forte raison, les fessées qui nuent en public, ce qui s'est pratiqué. L'humiliation, ça a pour effet de nous faire perdre notre, notre image de nous-mêmes, notre estime de nous-mêmes, notre confiance en nous. Et ça aussi, c'est gravissime. Alors, quel comportement, je n'ai pas pour un quelques minutes, quel comportement adopter à l'égard des enfants en tenant compte justement de ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire de tous ces aspects positifs des enfants. Eh bien, il me semble qu'il faut d'abord commencer par agir sur soi, commencer à se déconditionner de ce qu'on a subi, ce qu'on a reçu dans ce domaine, que ce soit sur l'image des enfants et que ce soit sur la façon de les éduquer. Se déconditionner, c'est-à-dire regarder ce qu'on a subi soi-même en le désignant vraiment comme un mal. C'est pas la peine d'accuser nos parents aussi. Mais ce qu'ils ont fait, eh bien non, c'était un mal. Alors que nous avons souvent tendance à dire « Ah oui, mais ce que j'ai reçu, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de faire mes études, ça m'a fait beaucoup de bien. » Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les pays où le châtiment des enfants, ce n'est pas la fessée ou la gifle, mais ce sont les coups de bâton, eh bien, le raisonnement est exactement le même. Vous avez j'ai vu le témoignage d'une étudiante qui disait « Moi, si je n'avais pas reçu des coups de balai, jamais j'aurais fait d'études, je me serais drogué, etc. » Et c'est vraiment parce que nous sommes, justement, ça tient à l'attachement, nous sommes si attachés à nos parents qu'il nous est très, très difficile de les accuser. Nous sommes restés, en plus, nous avons acquis l'idée que nous étions mauvais, puisqu'il fallait nous corriger. Donc, ils avaient raison de nous frapper. Et une fois que ce pli a été pris dans l'esprit, c'est très difficile de le déplier. Je vous en donne un exemple. Depuis que je travaille là-dessus, j'ai lu un grand nombre de livres sur la violence. Et j'ai eu la violence humaine en général. Et j'ai eu la surprise de constater que dans ces livres, écrits pourtant par des spécialistes, des sociologues, des psychologues, des psychanalystes, des historiens, des philosophes, eh bien dans ces livres, on ne parle pratiquement jamais de la violence éducative sur les enfants. Alors que c'est celle qui est la plus massive, la plus quotidienne, qui se vérifie tout le temps. Eh bien, ces scientifiques n'ont pas pensé à en parler. Quand quelques-uns l'abordent, ils l'abordent en une page pour dire que mais ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de conséquence sur la violence humaine. J'écris systématiquement aux auteurs de livres de ce genre, et je leur demande, mais pourquoi vous n'avez pas parlé ? Et alors beaucoup ne me répondent pas, peut-être parce qu'ils sont un peu gênés, et d'autres me disent « Ah ben, moi j'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé. » Comment peut-on ne pas penser à cela ? Et c'est bien le signe que dans notre esprit, il y a j'ai intitulé le livre que j'ai écrit là-dessus « Un trou noir dans les sciences humaines », il y a un trou noir, littéralement, ou un angle mort, si vous voulez. Un angle mort qui nous empêche de voir cet aspect-là. Je pense souvent à l'image de la bougie que vous placez au centre de la pièce. Si vous mettez près du mur, que vous mettez votre main près du mur, l'ombre, elle va avoir la dimension de votre main. Si vous vous rapprochez de la bougie, l'ombre, elle va avoir, quand votre main sera encadrée à la bougie, elle va couvrir toute la moitié de la pièce. Eh bien, la violence appliquée à au jeune âge, donc tout près de la naissance, la bougie étant la naissance, hein, elle agit sur tout un pan de la réalité. On ne le voit plus. On ne le voit plus et on dit n'importe quoi. Et on dit n'importe quoi, je vous assure que dans des livres que j'ai lus là-dessus, et pourtant de gens hyper connus et médiatiques, j'ai trouvé des choses ahurissantes. Bien. Donc, agir sur soi-même, se déconditionner, rectifier l'image qu'on a de l'enfant, se reconnecter avec l'enfant qu'on a été. Ça, je crois que c'est très important. Le voir comme un enfant innocent. Et je sais que pour beaucoup de gens, c'est très difficile parce qu'ils ont tellement acquis l'idée que l'enfant qu'ils ont été, t'es coupable quand même, le voir comme innocent. Et ça, si vous lisez Alice Miller, c'est une des choses qu'on y apprend, je crois. Si on n'arrive pas, si tout cela ne suffit pas, je crois qu'il ne faut pas avoir honte de se faire aider parce que c'est vraiment utile dans ces cas-là. Et il y a toutes sortes de méthodes de psychothérapie aujourd'hui qui permettent de bien guérir les traumatismes d'enfance. Ensuite, alors, ça c'est le travail de fond, de travailler sur soi. Ensuite, dans les moments de crise, qu'est-ce que le moment de crise avec un enfant ou des enfants, que faire? Là encore, il y a, je crois, une première opération, c'est de se recentrer sur soi-même, ne pas être dans le réflexe qui fait qu'on risque d'obéir à ce qu'on a subi dans le passé. Se recentrer sur soi-même, il y a un moyen très simple de le faire, qui peut être utile, tout simplement de respirer. Respirer profondément, respirer par le ventre, c'est-à-dire en agissant sur le diaphragme, qui est le centre, hein, de se croise une bonne partie des nerfs, du système nerveux, respirer pour se recentrer et se détendre, pour être vraiment soi-même, pour ne pas agir en fonction du passé qu'on a eu. Mettre la réflexion à la place du réflexe, si possible, alors c'est pas toujours facile, parce que les réflexes, ça part vite, et justement, il faut pour cela utiliser des retardateurs, alors chacun a ses retardateurs, on peut compter jusqu'à 10, ou quand on est tenté d'intervenir tout de suite, sortir de la pièce, aller prendre un carré de chocolat, mais trouver un moyen de retarder ses réactions. Quand j'étais père de jeunes enfants, à un moment où on était un peu débordé, et où j'étais débordé quelquefois, j'avais trouvé le yoga qui permettait, il y a des postures de yoga qui permettaient de retarder les réactions. Juste quelques secondes de retard, le temps de se dire « Ah, je vais faire une bêtise, voyons un peu ce qu'on peut faire d'autre. » Une bonne chose aussi, c'est peut-être de se mettre dans une attitude interrogative sur soi-même, et même interroger l'enfant. En lui disant non pas qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu fais, c'est qu'est-ce qui nous arrive. Parce que quand on est en conflit avec un enfant, ça concerne le parent et l'enfant. Qu'est-ce qui nous arrive, comment on pourrait arranger ça? D'une part, on se met soi-même en position interrogative et on commence à réfléchir, et on peut mettre l'enfant dans une position interrogative, parce que lui aussi est capable de réfléchir, et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de se dire des choses désagréables ou de se frapper. Autre chose importante, c'est de ne pas confondre les émotions de l'enfant avec des agressions. L'enfant peut avoir des colères, la colère c'est une émotion, mais c'est une émotion qui peut être très saine, et il faut accepter, je ne dis pas que c'est facile, mais accepter d'accueillir les colères, d'accueillir les émotions des enfants, plutôt que de les nier ou de les refouler, ce que nous avons tendance à faire. Je suis sûr que dans mon enfance, avec mes enfants, lorsqu'ils arrivaient, en s'étant égratigné, il me disait « j'ai mal », la tendance à dire « mais non, tu n'as pas mal », c'est la négation de la souffrance, la négation de l'émotion. Et ça peut marcher d'ailleurs, au bout d'un moment, on peut endurcir comme ça, mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne chose. Donc, accueillir les émotions, une bonne chose aussi, je crois, c'est de définir clairement le rôle qu'on a en tant que parent ou en tant que responsable d'enfant dans une institution quelconque. J'aime bien une formule qu'a utilisée un psychothérapeute qui s'appelle Pierre Lassus pour définir, là c'est le rôle des parents, mais c'est adaptable, il me semble, un peu au rôle des éducateurs. Il est défini en trois mots: protéger, pourvoir, permettre. Protéger, c'est vraiment la fonction des parents essentielle, surtout quand les enfants sont petits. Mais il faut bien voir que ça commence d'abord par protéger les systèmes qui vont permettre à l'enfant de se protéger lui-même. Donc les systèmes dont j'ai parlé au début, système immunitaire, système de sauvegarde, c'est essentiel que l'enfant ait bien en place ces systèmes et donc commencer par ne pas risquer de les dérégler. Ensuite, l'objectif, donc, c'est de faire que l'enfant se protège lui-même. Et là, il y a tout un équilibre difficile, bien sûr, entre le fait de laisser faire l'enfant et d'essayer de le protéger des dangers. Moi, quand j'ai une mère qui était très soucieuse, et elle m'a communiqué un peu cette tendance, ce souci, quand j'ai eu des enfants, j'avais tendance à me faire beaucoup de soucis pour eux, à ne pas permettre beaucoup de choses. Puis quand mes enfants sont devenus adultes, je me suis aperçu ils autorisaient beaucoup plus de choses que moi, où j'autorisais. Un beau jour, j'ai vu une de mes petites filles debout sur son tricycle, sur la selle, debout, en équilibre. Je m'apprêtais à intervenir, elle m'a dit « Non, là, elle s'est débrouillée très bien. » Et c'était une leçon. Elle a réussi à faire plus confiance à l'enfant, et l'enfant a acquis de cette façon une capacité à se débrouiller par lui-même. Je pense que vous connaissez tous la crèche de Budapest d'Amy Bickler, où elle enseignait aux femmes qui s'occupaient des enfants de les aider le moins possible. En particulier, ce qui m'avait frappé, c'est ne pas les aider à marcher debout. Les laisser trouver eux-mêmes la position debout. Parce que quand on les aide à marcher debout, quand on leur donne la main, quand on leur tient la main, on les met en situation de déséquilibre alors qu'ils ne sont pas capables encore, ils n'ont pas acquis par eux-mêmes l'équilibre. Et ils vont avoir des échecs. Et les échecs, ça va leur faire penser qu'ils ne sont pas capables d'y arriver. Tandis que quand ils font d'eux-mêmes l'accès à la marche, à la station debout, eh bien, c'est pour eux une victoire. Et en plus, il paraît, aujourd'hui, on dit qu'il faut commencer par marcher à quatre pattes avant de marcher sur deux pattes. Donc, c'est intéressant, je crois, de laisser au maximum les enfants se débrouiller par eux-mêmes. Donc, protéger, pourvoir ensuite, c'est répondre aux besoins, alors bien sûr, les besoins physiques, mais aussi et surtout les besoins affectifs, besoins d'affection, besoins de manifestation d'affection, qu'on n'a pas toujours, quand on n'a pas été... Quand on n'a pas reçu d'affection, on ne sait pas toujours comment la communiquer. J'avais un copain d'enfance qui était, lorsqu'il a été, il avait été élevé par un père très, vraiment méchant, sadique. Et il n'a pas eu de manifestation d'affection. Quand il a été père, il a été incapable d'avoir des manifestations d'affection avec son fils. Quand il me voyait avec mes enfants sur les genoux, il m'enviait. Mais il ne pouvait pas le faire parce qu'il n'avait pas reçu cela. Donc, pourvoir les enfants d'affection, de tendresse. Alors ensuite, distinguer bien sûr les besoins et les désirs, ça c'est essentiel. Je crois que quand on aboutit à faire ce qu'on appelle les enfants rois, c'est souvent parce qu'on a satisfait tous les désirs et quelquefois pas toujours vraiment les besoins, notamment les besoins affectifs. Bien faire la distinction, les besoins ça doit être satisfait, et immédiatement, les désirs, non, ça peut attendre, on peut jouer à acheter, ça peut venir pour Noël, pour l'anniversaire, etc., ça peut attendre. Ensuite, bon, j'ai un peu chose à dire, mais je vais peut-être, là, j'approche de mon temps de parole, la fin de mon temps de parole.
Vous pouvez continuer, pas de souci.
Ensuite, permettre, c'est... littéralement, étymologiquement, ça veut dire permettere, c'est envoyer vers. Envoyer, ça rejoint le poème de Khalil Gibran, vous connaissez sans doute, vos enfants ne sont pas vos enfants, vous êtes l'arc qui envoie la flèche. Hein. Permettre, donc, je trouve intéressante une définition, alors malheureusement, je ne sais plus qui elle est, je sais que je l'ai emprunté à quelqu'un, mais je ne sais plus à qui définissait l'autorité. Qu'est-ce que c'est que l'autorité? Eh bien, c'est savoir permettre. L'autorité, c'est savoir permettre d'abord. Et alors, bien sûr, après, il y a des interdits, mais le fond de l'autorité, c'est ça. Reconnaître les capacités des enfants, leur permettre de les développer, et donc savoir permettre. Veiller sur plutôt que surveiller aussi. Vous sentez la nuance entre les deux, hein, surveiller avec méfiance, soupçon, mais veiller sur, c'est évidemment indispensable. Savoir dire non, bien sûr, quand les enfants sont capables, mais en expliquant, quand les enfants sont capables de comprendre les explications, mais ils comprennent tôt, et établir des règles aussi, établir des règles claires, qui soient mutuelles, c'est-à-dire que les enfants voient bien que les parents ont aussi des règles qui les obligent à leur égard, à l'égard des enfants, qui vont dans le sens de la satisfaction de leurs besoins. Pour ce qui est des interdits, j'ai trouvé dans le livre d'Isabelle Figueza, que vous connaissez peut-être, J'ai tout essayé, qui me paraît un très très bon livre, parce qu'il est constamment fondé sur des études scientifiques. Elle fait la distinction entre non, le non, quand on dit non, ne fais pas ça, et stop. Je trouve la différence intéressante parce que le non, d'abord, on ne prononce pas non de la même façon. On fronce le sourcil quand on dit non. Quand on dit stop, le sourcil est relevé. Et le non, c'est un peu la négation de la personne. Le stop, c'est l'acte simplement, qui est dangereux, donc arrête. Mais ça porte moins sur la personne, disons. Veut dire ça m'énerve plutôt que tu m'énerves, bon, pour ne pas accuser. C'est quand même une distinction importante, je crois. Isabelle Filioza aussi dit qu'il faut tenir compte de l'immaturité du cerveau des enfants, c'est évident, mais elle dit quelque chose à quoi je n'avais jamais pensé, c'est que les enfants ne peuvent pas intégrer à la fois, jusqu'à un certain âge, je ne sais plus quel âge, de 3 ans et demi ou quelque chose comme ça, à la fois une affirmation et une négation. C'est-à-dire que quand on dit à un enfant « ne traverse pas la route », il entend « traverse la route ». Et Isabelle Filioza donne plaisamment l'exemple, si je vous dis « ne pensez pas à une girafe », vous allez réagir comme les enfants, je pense. Et c'est des petites choses comme ça qui s'appuient sur la connaissance du fonctionnement du cerveau des enfants qui me paraissent importantes. Bon, je crois quelques emprunts aussi à un psychologue danois dont je vous recommande la lecture. Le premier livre qu'il a publié en français s'appelle « Regarde ton enfant est compétent ». Il dit quelques petites choses qui me paraissent intéressantes. Si j'avais un conflit avec mon ou ma meilleure amie, comment m'exprimerais-je? Si nous disions cela au moment où nous avons un conflit avec un enfant, si c'était mon meilleur ami, qu'est-ce que je dirais? Et il dit aussi qu'il faut chercher à rendre les conflits constructifs plutôt que de chercher à avoir raison à tout prix. Je m'arrête là, je vais encore vous dire simplement, j'ai encore un petit exemple simplement. Vous dites peut-être comment savoir si ce mode d'éducation peut avoir des chances de réussir. Eh bien, on a une enquête qui a été faite, alors apparemment sur quelque chose qui est tout à fait différent, mais vous allez voir que ça peut s'appliquer. Il y a un couple d'Américains qui a eu l'idée de se demander comment les justes, ceux que l'on appelle les justes, vous savez, avaient pu faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire sauver des quantités de juifs menacés de déportation pendant la guerre. Comment avaient-ils été éduqués pour faire cela? Ils ont eu l'idée donc d'interroger tous les justes qu'ils ont trouvés. Ils en ont trouvé plus de 400. Et ils ont posé la question, comment avez-vous été éduqués? Et le résultat de ce sondage, ça a été celui-ci. Parmi les premières réponses qu'ils ont données, les plus fréquentes, il y a eu qu'ils ont été élevés par des parents affectueux. Bon, la majorité des parents sont affectueux, quand même, c'est pas tout à fait discriminant. Ils ont été élevés par des parents qui leur ont appris l'altruisme. Ça aussi, en général, les parents essaient de l'apprendre. Et dans la morale chrétienne ambiante en Europe, c'était l'altruisme, c'était quand même ce qu'on essayait d'enseigner aux enfants. Troisième point, ils ont eu des parents qui leur ont fait confiance. Alors imaginez que ces enfants, ils ont été élevés au début du siècle, à la fin du 19e siècle, à une époque où on était loin d'avoir tendance à faire confiance aux enfants, où on les battait vraiment beaucoup plus violemment qu'aujourd'hui. Et quatrième point, ils ont eu une éducation non autoritaire et non répressive. Je trouve que cet exemple est intéressant parce qu'il montre que des enfants dont l'intégrité est respectée peuvent devenir plus facilement peut-être des êtres qui tout de suite manifestent leur altruisme à l'égard des autres, leur humanité. Bon, je m'arrêterai là, merci.
Merci pour ce bel.
Bon, je